je regardais la télévision, enfin un film, je regardais Fast and Furious. Et à un moment, à la fin du film, on a les potes, les amis, ils sont en train de manger le barbecue. Et l'autre lui dit, mais pourquoi tu manges, t'as pas encore prié? Il prie, et dans sa prière, il demande des équipements pour sa voiture, pour que sa voiture aille plus vite, pour qu'il puisse être plus performant et remporter sur les autres. Ce matin, nous allons voir ce que Paul lui demande dans ses prières pour l'église de Philippe, pour l'église aux Philippiens. Nous sommes dans le chapitre 1er, des versets 9 à 11. Paul, quand il écrit cet épître, il est sous contrôle judiciaire en résidence surveillée. Il a, comme on pourrait dire, un bracelet qui le limite dans ses faits et gestes. Et il va écrire cette lettre d'encouragement pour les Philippiens. Dans les deux premiers versets, il va saluer l'Église. Du verset 3 à 11, il va prier pour cette Église. Il va prier d'abord pour remercier Dieu. Et ensuite, il priera pour demander quelque chose à Dieu pour les Philippiens. Je vous propose de lire les versets qui précèdent le texte sur lequel on va s'appuyer. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre, cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. On va s'intéresser au verset 9 à 11. Paul demande quoi? Il demande que leur amour abonde encore de plus en plus. Comment? En connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi? Pour qu'ils puissent discerner ce qui est essentiel, ce qui est le meilleur. Dans quel but? Afin qu'ils soient trouvés purs et irréprochables lors du jour de Jésus-Christ. On a une implication, c'est qu'ils sont remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ. Dans un premier temps, on va voir que Paul recherche l'excellence pour les Philippiens. Il recherche l'excellence ayant pour visée l'éternité, et non pour sa gloire, mais pour la gloire de Dieu. Paul recherche l'excellence des versets 9 à 10a. Paul, on a vu, il commence par remercier Dieu pour la part qu'ils prennent à l'Évangile, pour l'amour qu'ils ont de l'Évangile. Paul, il va encore plus loin. Il va demander que l'amour qu'ils ont de l'Évangile pour les autres augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour qu'ils puissent discerner ce qui est essentiel. La question: pourquoi ils ont besoin de grandir en connaissance et en pleine intelligence? Pourquoi Paul ne le demande pas qu'ils grandissent seulement en amour? Jésus a dit, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Pourquoi Paul demande qu'ils grandissent en connaissance et en pleine intelligence? Est-ce qu'ils ne peuvent pas discerner ce qui est essentiel seulement avec l'amour? Non. Sinon, on ne le demanderait pas. C'est bien. L'amour, c'est une décision. C'est un choix que les Philippiens doivent faire. L'amour n'est pas fondé sur des sentiments, sur des émotions, sur des frissons ou des choses extraordinaires. L'amour est fondé sur quelque chose de raisonnable. la foi des Philippiens sera plus solide s'ils savent et comprennent toute la portée du sacrifice de Jésus, s'ils comprennent la puissance de la croix, s'ils comprennent combien Dieu les aime. Jésus sera d'autant plus grand s'ils comprennent qui est Jésus dans sa nature et dans son œuvre. Un célèbre personnage, Pierre Desproges, a dit « Plus je connais les femmes, plus moins j'aime ma chienne, plus je connais les hommes, moins j'aime mon chien. » Plus nous avons la connaissance de quelqu'un, plus nous avons des raisons solides de l'aimer, ou pas. Et si on n'aime pas, on ne peut pas aimer en pleine connaissance, en connaissance en tout cas. Il nous faudra demander la grâce de Dieu de pouvoir aimer notre prochain, comme il nous dira dans la suite des chapitres. Une autre raison, c'est que si nous avons la connaissance d'une personne, nous pourrons placer notre confiance en lui. Paul dira au chapitre 3 et au verset 8 « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Sans la connaissance de Jésus, Paul ne pourrait pas s'abandonner au Christ. Sans la connaissance de Jésus, les Philippiens ne pourraient pas s'abandonner au Christ. Sans notre connaissance de Jésus, comment pourrions-nous nous abandonner au Christ ? Il nous faut rechercher la connaissance de Christ, savoir qui il est, dans son œuvre, dans sa nature, pour pouvoir mieux l'aimer. Mais Paul ne demande pas que la connaissance. Il demande aussi la pleine intelligence. On pourrait croire qu'il met ces deux mots juste pour renforcer l'idée que l'amour est quelque chose de raisonnable. Mais je pense qu'il veut dire quelque chose de plus profond quand même dedans. L'intelligence, c'est ce qui va nous faire analyser les choses. La connaissance, on va avoir un descriptif de qui ils sont. On sait que le chien, il aboie, il a quatre pattes, il pue, plus ou moins, suivant les types de chiens. Ça, c'est la connaissance qui nous permet de dire ça. Avec l'intelligence, on va pouvoir analyser qui il est et comprendre vraiment qui il est. Comment se concrétise cette nature dans cette personne ? Pour pouvoir raisonner, il nous faudra donc la connaissance et l'intelligence. Mais Paul ne demande pas que l'intelligence, il demande que l'intelligence soit pleine. Donc, est-ce qu'ils sont bêtes ? Dire on réfléchit qu'à moitié ? Mais ça, c'est pas possible. Si on réfléchit, si on réfléchit pas. Qu'est-ce que Paul veut dire dans ce mot plein, pleine intelligence ? Paul veut seulement souligner, à mon sens, que c'est la pleine intelligence qui vient de Dieu. La plénitude de Dieu, seul Dieu, est raisonnable. Et donc il nous faut l'intelligence donnée par Dieu. On peut lire ce que Paul écrit aux Romains. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est bon et parfait. On a vu que c'est dans le but de discerner ce qui est le meilleur. Cette pleine intelligence que Paul demande pour les Philippiens, c'est l'intelligence transformée et renouvelée par Dieu. Il dira quelque chose de semblable aux Éphésiens. On vous enseigne à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui est produit la vérité. L'intelligence que Paul demande pour les Philippiens, c'est celle qui vient de Dieu. Dans la suite du livre, Paul dit que leur intelligence est obscurcie et qu'elle a perdu tout sens moral. Et elle se laisse guider par leurs mauvaises pensées, par leurs sottises. Donc ça ne peut pas être par leur intelligence à eux. C'est la pleine intelligence qui vient de Dieu que Paul demande. Jésus, tout à l'heure, je disais qu'il disait d'aimer son prochain et d'aimer Dieu. Mais il dira aussi à la personne qui va lui demander quel est le plus grand commandement. et dira « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta pensée. » Donc, même Jésus dit qu'il faut aimer avec la pensée, il faut aimer avec son intelligence, avec la connaissance. Alors du coup, maintenant que j'ai dit que c'était important d'aimer avec la connaissance et l'intelligence, à quoi sert l'amour ? Pour pouvoir discerner ce qui est essentiel et ce qui est le meilleur. L'amour permet aux hommes de comprendre qui ils sont, de comprendre la place de Dieu. L'amour leur permet de rester à leur place et de ne pas être orgueilleux. L'amour, Paul dira que c'est l'amour est quelque chose de passion. Enfin, c'est l'amour et passion. Il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice. Quand nous avons un petit peu de connaissances, nous avons facilement tendance à nous élever au-dessus des autres, à chercher son propre intérêt. Paul prendra l'exemple de Jésus au chapitre 2. Il dira que Christ s'est dépouillé, lui qui était de condition divine. Il a obéi jusqu'à la mort à la croix, par amour. L'amour est important dans la connaissance et dans la pleine intelligence pour nous canaliser à notre rang et garder le référentiel sur Dieu et pas sur nous. Maintenant, reste à savoir ce qui est essentiel, ce qui est le meilleur, parce que c'est ça le but. Je prie que votre amour augmente de plus en plus en pleine connaissance et en pleine intelligence, afin de discerner ce qui est essentiel. Paul ne veut pas dire le bien ou le mal. Vous connaissez peut-être un peu Paul, il ne fait pas souvent dans la demi-mesure. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. S'il veut dire que c'est mal, c'est mal. Quand il dira aux Romains, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. Là, il va dire clairement mal, bien. Paul parle de ce qui est essentiel, le meilleur. On voit qu'il demande une croissance dans l'amour. Et il demande une croissance dans l'amour, mais aussi dans le discernement en ce qui est le meilleur. On verra dans plusieurs traductions, il parlera d'essentiel, d'excellent, d'important, de mieux, de meilleur. Voilà, c'est tous les mots qu'on a dans les différentes traductions. Paul veut que leur amour augmente de plus en plus, afin qu'ils puissent discerner ce qui est le meilleur. Il prie pour que les Philippiens aient l'excellence de vie que Dieu voudrait qu'ils aient, afin qu'ils soient purs et sans défaut au milieu d'une génération corrompue et perverse. Philippiens 2,15. Cette excellence que Paul demande, une visée présente, mais aussi future. Dans le présent, ce sera une démonstration de leur changement de pensée. Et ainsi, ils pourront resplendir comme des flambeaux. Ils pourront porter la parole de vie. Ça, c'est l'aspect présent de se laisser transformer et renouveler dans l'intelligence et la pleine connaissance de Christ. Dans la suite, on voit que Paul image sa vie par la course. Il court vers la perfection, vers le but pour remporter l'appel céleste, pour être trouvé digne de l'appel que Jésus-Christ lui a lancé. Paul veut qu'en toute chose, les Philippiens recherchent le meilleur pour leur vie, l'excellence. Ils recherchent ce que Christ ferait à leur place, parce qu'ils ont la pensée renouvelée par Christ. Qu'il s'ancre toujours plus dans la pensée de Dieu, que ta volonté soit faite et non la mienne. Le théologien Donald Carson, après Pierre Desproges, qui était un théologien, dans le livre La prière renouvelée, propose des exemples concrets sur l'excellence. Il pose des questions plutôt. Il dira, quel usage faites-vous de votre temps ? Combien d'heures passez-vous avec votre famille, vos amis? Combien de temps consacrez-vous à présenter l'Évangile? Combien de temps consacrez-vous à regarder la télé? Recherchez-vous ce qui est le meilleur dans ce domaine? Qu'avez-vous lu les 6 derniers mois? Avez-vous lu un roman policier? Un commentaire biblique? Recherchez-vous le meilleur dans vos lectures? Comment décidez-vous de l'usage de votre argent? Est-ce que vous donnez une somme et tout le reste vous le gardez pour vous? Ou est-ce que tout ce que vous pouvez donner, vous le donnez par générosité, parce que tout appartient à Dieu? Quel usage faites-vous de votre argent? Est-ce que vous recherchez le meilleur dans la gestion de votre argent? Recherchons-nous le meilleur dans tous les domaines de notre vie? Soyez saints, car je suis saint, dira le Seigneur, on voit ça dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Je cours vers le but, dira Paul. Je recherche l'excellence pour être retrouvé pur et irréprochable lors du jour de Christ. Paul continuera à dire, quand il dira qu'il recherche l'excellence, nous tous qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et puis, si vous êtes d'un autre avis, Dieu vous éclairera là aussi dessus. Donc, peut-être pour maintenant, ce n'est pas le meilleur pour vous. Vous pensez que ce n'est pas le meilleur. Mais Dieu va vous transformer, va renouveler votre intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est le meilleur. Est-ce que je recherche sans cesse le meilleur pour ma vie? Pour celle de l'Église? Est-ce que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, de Dieu? Paul, il cherche l'excellence pour les Philippiens, mais il ancre cette prière dans la perspective de l'éternité. C'est le deuxième point. On voit ça au verset 10b, 11a. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ. Paul est plus intéressé sur l'éternité que par le présent. Il pourra écrire sur les souffrances actuelles, mais que c'est rien par rapport à la gloire à venir. On voit ça dans Romains 8. Il prie en vue du jour de Christ qui reviendra juger les vivants et les morts. Ce que Paul souhaite, c'est que les Philippiens grandissent en Christ et recherchent le meilleur pour arriver vers le but, la perfection en vue du retour de Christ. Paul n'est pas bête. Il est conscient que cette perfection n'est pas possible totalement. Mais il tente de s'en approcher. Au maximum, il court vers ce but. Il oublie ce qui est derrière. Et son objectif, c'est d'avancer. D'avancer vers le Christ. Tout ce que Paul fait, c'est pour l'éternité. Il investit sur l'éternité. Il dira qu'il sait vivre dans la pauvreté, qu'il sait vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, il a appris à être rassasié et à avoir faim, être dans l'abondance, être dans le besoin. Il peut tout par l'Éternel qui le fortifie. Paul peut tout par l'Éternel qui le fortifie. C'est sa seule raison de vivre. Mourir est un gain. Christ est la vie. Il est plus important que je reste près de vous, il dira. Mais je serai mieux près de Christ, réellement. Avoir les pensées sur l'éternité change notre manière de vivre, changera la manière de vivre des Philippiens. Ils pourront briller comme des flambeaux. Leur vie aura un autre goût pour les autres. Leur vie reflétera déjà le royaume. Ils seront dans l'éternité avant l'heure. Du moins, ils expérimenteront les fruits du royaume, quelques principes du royaume. Toujours Donald Carson dira que Paul prie pour un réveil, pour que les personnes se recentrent sur Dieu et pour qu'ils puissent prendre conscience de leur médiocrité. Il prie pour que les personnes se réveillent et pour qu'ils pensent à Dieu et que leur référentiel soit Dieu et plus eux-mêmes. On a vu que les Philippiens étaient remplis du fruit de justice produit par le sacrifice de Christ. Et du coup, ce n'est pas par eux-mêmes qu'ils vont resplendir comme des flambeaux. C'est parce que leurs pensées auront été transformées, leur intelligence aura été renouvelée. Ils se seront laissés transformer par Dieu. Ils pourront apporter la parole de vie. Mais pas autrement, ce n'est pas par eux-mêmes. Jésus aura changé leurs pensées, leur amour pour les autres et pour Dieu. Leur douceur sera connue de tous, parce qu'ils seront laissés transformer. Et Paul rajoute juste après, hein, quand votre douceur sera connue de tous, il répétera, le Seigneur est proche. Réfléchissez, le Seigneur est proche. Un chanteur un peu moins connu, peut-être, Didier Super. Il dira dans une chanson, on va tous crever. Il y a la fin du monde qui nous guette, et nous on fait la fête. On va tous crever. On va tous crever. La fin du monde nous attend, et nous on fait la fête tout le temps. Quels sont mes sujets de prière? Pourquoi je prie? Dans quel but je prie? Est-ce pour quelque chose de présent? Ou est-ce que je veux investir sur l'avenir? Paul prie pour leur excellence en vue de l'éternité, mais pas pour leur gloire, mais pour la gloire de Dieu. C'est le troisième point. Paul recherche la gloire de Dieu. 11b. On pourrait croire, hein, que Paul rajoute ça comme on pourrait faire à la fin d'une prière, on dit « Amen » pour faire joli, ça décoratif. Mais Paul pense que c'est très important que ce soit à la gloire et à la louange de Dieu. Et à juste titre, il me semble. Il le répétera tout au long du livre, hein, souvent à la gloire de Dieu. On voit ça quand il présente le Christ, justement, que le Christ s'est humilié. Il dira à la fin « à la gloire de Dieu notre Père ». Si Paul ne dit pas que c'est pour la gloire, la louange de Dieu, on pourrait croire que Paul demande un perfectionnement des personnes qui se bonifient par eux-mêmes et qui deviennent excellents par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Mais pas du tout. Ce que Paul recherche, c'est pas qu'ils grandissent pour grandir ou qu'ils deviennent meilleurs pour être meilleurs. Mais c'est pour glorifier et pour louer Dieu. On voit ça dans plusieurs lettres de Paul. Il se met toujours après Dieu. Il place Dieu avant lui-même. Il dira dans ce même livre, « Moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. On voit que dans la vie de Paul, il s'est laissé renouveler dans son intelligence pour Dieu, pour qu'il puisse glorifier Dieu comme il se doit. Tout ce qu'il avait, il l'a regardé comme une perte. Et c'est à cause de la connaissance qu'il a du Christ qu'il a pu se laisser dépouiller, qu'il s'est dépouillé lui-même, comme Christ l'a fait. C'est parce qu'il connaît Dieu, il sait qui il est dans sa nature et dans son œuvre. Le Dieu trinitaire, je ne parle pas que de Jésus, je parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La connaissance de tous ces points. Paul met sa joie dans le Seigneur, et seulement dans le Seigneur, et non dans qui il est. Il ne met pas sa joie parce qu'il est né d'Hébreu, de la tribu de Benjamin, ni même parce qu'il est apôtre et puis il a une certaine autorité sur les églises, sur les gens. Il met sa joie seulement dans le Seigneur. Sa gloire, c'est d'être en Christ. Paul a son identité en Christ et non dans son travail, dans sa réussite sociale, dans son origine. Tout ça, ce ne sont que des moyens pour pouvoir être une lumière dans le monde, pour pouvoir apporter la parole de vie. Ces moyens lui permettent de démontrer l'amour de Dieu. Et tous ces points, il les considère comme des ordures, afin d'être trouvé pur et irréprochable lors de la venue de Christ. Tout ça pour la gloire et la louange de Dieu, seulement pour la gloire et la louange de Dieu.